Soir avec les dramaturges Guy Régis Junior et Jean-René Lemoine et avec l'anthropologue Lainey Curgon. C'est ce soir à 21h.
France Inter présente.
Il ne m'a pas appris l'anglais.
Arnaud Florent Didier.
Il ne m'a pas appris l'allemand.
En concert à Paris à La Cigale le 6 décembre.
Je vais au cinéma. Je vais voir n'importe quoi. Je m'en fous.
Retrouvez Arnaud Florent Didier dans le programme musical de France Inter.
France Inter. La différence.
15h04 sur France Inter, on retrouve Daniel Mermet là-bas si j'y suis.
Je suis professeur au lycée Marc Seguin à Vénissieux, c'est un lycée professionnel. Un de mes élèves a été enfermé la semaine dernière en centre de rétention administrative à côté de l'aéroport de Saint-Exupéry, Lyon, en attente d'être expulsé dans un avion. La justice marche sur la tête, elle met nos enfants en prison. Un enfant qui va avoir 19 ans, qui préparait son bac sérieusement, qui est timide, qui est très jeune, c'est le plus jeune du centre de rétention. Je vous demande de signer la pétition sur le site RESF, Réseau Éducation Sans Frontières, pour mots et thèses. Merci.
Bonjour à toutes et à tous. Ce vendredi soir 26 novembre, à partir de 19h à la Maison du Peuple de Clermont-Ferrand, RESF 63 organise un concert de soutien pour les sans-papiers avec les groupes RN89, Tipietok, Baba Yaga et un musicien rom, Chaban. Venez nombreux nous soutenir et merci à toi Daniel de nous permettre de continuer à espérer.
Bonjour Daniel, ici Christa pour l'association Le Pas de Côté à Gaillac dans le Tarn. Nous organisons la venue de Franck Lepage qui présentera le spectacle Inculture 2. Il s'agit de petits contes politiques et autres récits non autorisés sur le système de l'éducation en France. C'est aussi un grand moment d'éducation politique, éducatif et marrant. Venez nombreux, il reste des places. C'est à la salle des spectacles de Gaillac le vendredi 26 novembre à 20h30. Salut!
Bonjour Daniel, c'est Carole de Paris. Aujourd'hui, mercredi 24 novembre, trois associations féministes lancent un manifeste contre le viol. Le collectif féministe contre le viol, Mixité et Oser le féminisme s'associent pour dénoncer cette forme extrême de violence envers les femmes. Chaque année, 75 000 femmes sont violées en France. 198 000 sont victimes d'un viol ou d'une tentative de viol. C'est un phénomène massif qui démontre les inégalités très fortes qui persistent encore dans notre société entre les femmes et les hommes. Cette situation doit changer. Pour briser le silence, pour permettre aux femmes victimes de ne plus avoir honte, de pouvoir en parler, nous lançons une campagne intitulée « Viol, la honte doit changer de camp ». Signez le manifeste sur www.contreleviol.fr.
On trouve le monde entier à l'aéroport de Lubumbashi, au Katanga. On croise des équipes de Chinois. On rencontre un Russe pilote. On rencontre un Ukrainien mercenaire. On rencontre une Indienne, on rencontre des Libanais, on rencontre un couple de vieux blancs belges qui doivent faire partie d'un cercle de vieux wallons. Et puis deux blancs, c'est-à-dire nous, les grands reporters de la base J'y suis, qui ailleurs, ici on passe très bien et on ne surprend personne, mais ailleurs au Katanga sont des Batumbula. Batumbula, les Batumbula, ce sont les blancs mangeurs d'enfants. Et il se trouve des endroits où reculés, où lorsqu'on passe, eh bien les petits-enfants se sauvent en criant Batumbula, Batumbula. Et pourquoi se sauvent-ils? Eh bien, ça relève de l'inconscient collectif. Et ça renvoie au mythe de la colonisation. Au temps de la colonisation, les Blancs recrutaient les petits Noirs pour les faire travailler dans les champs, pour les faire travailler dans les mines. On appelait ça la mission civilisatrice. Et les petits Noirs n'avaient pas du tout envie d'aller travailler pour les grands frères Blancs. Alors ils se sauvaient et les recruteurs les rattrapaient et les petits Noirs hurlaient et les recruteurs les embarquaient, les capturaient malgré leurs cris. Et ainsi, ils disparaissaient. Et ils disparaissaient pour aller travailler dans des campements divers et variés, dans des conditions assez peu caressantes. Et voilà, le mythe est né ainsi. c'est-à-dire les petits noirs disparaissent car les blancs les mangent. Ce mythe est toujours présent. Loup dans notre hexagone, c'est les vieux dont nous avons peur. Les vieux sont nos épouvantails. Les vieux sont ce que nous rejetons. On peut parler d'apartheid générationnel, surtout quand le vieux devient dépendant. Sauf que le souci, c'est qu'il y en a de plus en plus, et que ce vieux, et surtout ce vieux dépendant, constitue un marché extrêmement juteux. On peut vraiment parler d'industrie du vieux, et c'est vers cette industrie du vieux que tous les grands capitaux, tous les grands actionnaires, toutes les grandes entreprises se tournent. Il y a eu le cycle du cacao, il y a eu le cycle du caoutchouc, voici venu le cycle du vieux. Et ça, on l'avait prévu dans la base où j'y suis. J'apprends ici à Lubumbashi que notre gouvernement va faire de la dépendance son grand cheval de bataille. Eh bien, je pense que c'est parce que le gouvernement écoute en secret la base où j'y suis, la preuve aujourd'hui dans cette nouvelle diffusion des reportages que nous avons consacrés avec Charlotte Perry sur ce sujet. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base si j'y suis au 01 56 40 37 37. Message que j'écoute ici à l'aéroport de Lubumbashi.
Lundi 29 novembre, journée internationale pour la paix en Palestine. À Albertville, à 20h30, salle du Val des Roses, Dominique Vidal. Dominique Vidal fera une conférence sur ce qui bloque, ce qui bouge en Israël-Palestine. Venez l'écouter, l'entrée est gratuite à 20h30, salle du Val des Roses à Albertville en Savoie.
Ce message pour attirer l'attention sur le sort d'une famille tchétchène, réfugiée politique hébergée aux Ulysses dans l'Essonne depuis mars 2010. La préfecture de l'Essonne leur a indiqué verbalement son refus de régularisation. Il s'agit d'un couple et de ses 12 enfants âgés de 19 à 3 ans. Le père est actuellement soigné pour un cancer de l'estomac et des intestins. Une prochaine opération et des soins réguliers restent nécessaires. Nous savons le sort réservé aux Tchétchènes dans leur pays. Aussi, nous mettons en ligne une pétition sur www.pétitionpublique.fr. À la rubrique « Les Tchétchènes doivent rester en France ». Merci à tous les AMG qui signeront et nous aideront ainsi à obtenir pour cette famille le droit de vivre et de rester en France.
Bah dites donc, vous en avez de la chance, les gens du Nord et du Pas-de-Calais. Vous allez pouvoir entendre François, mais non, pas Fillon, voyons, François Ruffin en personne, qui va animer ce jeudi 25 novembre à 20h à Douai, salle d'Anchin, rue Fortier, pas loin de la gare. Une conférence débat organisée par le CREA autour de la guerre des classes. Il sera aussi le lendemain, vendredi 26 novembre à 19h30 à Calais, au cinéma L'Alhambra, où il interviendra après la projection du film de Pierre Carle, Fin de concession. Alors à bientôt, à Douai ou à Calais.
Bienvenue à bord du TER Centre, à destination de Reignac. Il desservira Joué-les-Tours, La Douzillière, Montbazon, Vennier, Èvres, Cormeries.
Moi je vais dire, je veux pas dire un truc, mais j'allais dire, moi j'appellerais ça un mouroir. C'est un endroit où on dépose des gens parce que ben, on attend que ça se termine.
Vous avez le pain tout à l'heure.
Le pain.
Le pain. Prends un pain. À la
baignoire.
Hein? Et malheureusement, c'est que on peut rien faire. Non, enlevez-moi là, ça. Elle pue.
On se réveille.
C'est comme ça, il faut qu'il y ait du rendement, il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre, faut que... Et à l'heure actuelle, les personnes âgées, c'est du bétail. Et encore, je veux dire, je crois que maintenant, un animal, s'il souffre, il est... on le pique. Hein. On ne laisse pas comme ça.
Nous avons décidé de ne plus lire les livres, mais les rides de nos ancêtres. C'est là-bas si j'y suis, c'est Daniel Mermet, avec Charlotte Perry.
Coucou ma petite mère.
Bonjour.
Bon, ma petite mère, t'es dans le noir. T'es dans le noir. Qui c'est qui t'a fermé comme ça?
Non, mais je me voyais toute seule alors.
Ils ont fermé les volets?
Ah, je vais les ouvrir. Hein.
C'est même pas le courage de débarrasser ma table.
Mais maman, c'est pas à toi de le faire.
Quelle honte, quelle honte, quelle honte. Oh, je n'aurais pas resté comme ça autrefois. Ah oh, non. Ah non.
Ça, c'est sûr.
Quelle affaire, mon Dieu. Tu es foutu.
Mais non, t'es pas foutu, maman.
Choisis, je veux.
Mais non.
Je n'ai pas de goût. Mon Dieu. Quelle vie, quelle vie, quelle vie, quelle vie. Quelle vie. Mais non, c'est pas possible. Ah, la misère. À poil. Ouf, j'ai un poil.
Enfin, à manger quand même.
Manque de temps traîné, manque de temps. Je peux plus marcher, je marche encore un peu. Mais j'ai été 3 mois là sans pouvoir bouger. Je ne pouvais pas bouger du tout mes jambes. J'ai souffert. Oh là là. Quelle affaire. Je ne voudrais pas vieillir.
Qu'elle
oh,
soit bien
mal à la tête.
Oh
là là.
Entrez. Ah, vous êtes gentille.
Je suis venue voir. Son dentier du bas, il est resté.
Elle l'a retrouvé. Tu l'as plus, là, maman?
Du bas, alors.
Ton dentier, fais voir. Non, fais-moi voir ta bouche.
Je ne l'ai pas.
Ben, tu l'as mis où, maman?
Oui, dommage.
Figurez-vous, il a été perdu 2 mois.
Je ne sais même pas où il est.
Attends, bouge pas tes pieds, que je te fasse pas mal.
Ah ben, si tu le vois pas en haut...
Ben, maman, pas... je le vois pas. À moins que tu l'aies mis dans un petit mouchoir.
Il n'est pas par là.
Ben, où veux-tu qu'il soit?
Je le mets pas... C'est... Ben, regarde en bas. Ben,
j'espère que tu l'as pas mis à la poubelle, maman. Ben, j'ai regardé en bas.
Regardons en bas.
Ah ben, en bas.
Chut, je sais pas ce que c'est, le bas, non?
Faites pas attention, ah. Hein. Par moments, ça... En bas, t'en as un bazar, là-bas.
Non, c'est... il n'est pas en bas, non plus.
Du pain, du...
Ben, je suis bon, j'ai mis.
Ça coûte cher un dentier, hein?
Je peux que je...
Dans la salle d'eau, j'ai rangé ses flacons.
Moi, je le mets jamais.
Bon, des fois, les toilettes, hein, c'est pas net. Hein. Mmh. Bon, il faudrait que ça soit récuré, mais non.
Pas de la première génération.
Comment?
C'est pas de la première génération.
Ah non, 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 c'est un établissement. Mais moi, je suis bien coiffée aussi. C'est un vieil établissement, hein?
Ah oui, oui.
Excusez-moi. Ben, le dentier, il est disparu encore.
Ah oui, il n'y a pas de douche dans la...
Ah, ah non, non, ils vont les doucher au milieu. Dans le couloir. Ton placard, là, il y a plein de miettes, il y a plein de...
Oh, je t'en vais.
Mais maman, c'est pas à toi de le faire, je le ferai, moi. T'inquiète pas. Ça m'est arrivé de laver avec du soupe, pas. Fallait demander des chiffons filles.
Oh, ben, je suis...
Ben, je vois bien, là. Puis l'oxygène, ça doit l'eau dormir.
Oh, quand j'ai toute seule. Ah oh. Oh, oui, je m'ennuie. C'est imaginable. J'ai toujours quelqu'un, remarque, tout le temps, tout le temps. Mes enfants, mes fils, tout ça. Mais sitôt que je suis un peu toute seule, oh... Je suis perdue, je regarde la mort, et puis le cafard me prend. Oh là là, là. C'est quelque chose. Moi qui m'aime tant la vie, puis maintenant. Et puis j'ai perdu tout mon monde. J'ai perdu un fils, presque deux.
Ah ben non, non, non. Ah. T'as perdu papa.
J'ai
et puis Jackie.
Mon mari. Et oui. J'ai plus personne.
Bah t'as nous, maman.
Ah.
Tu as nous. Nous, on est là.
Ah bah heureusement.
Bah oui. Et puis on te laisse pas.
Mm-hmm.
Bioc, schnock, déchets, renures, débris. On peut y aller avec les vieux. Les Arabes, il faut faire attention. Les Noirs, il faut faire attention. Les Juifs, il faut faire attention. Les PD, il faut faire attention. Mais les vieux, on peut y aller. On peut se lâcher. On peut se lâcher. Les débris, les rognures, les inutiles. On peut y aller. Ça compte pas. 15 000, l'été 2003, lors de la canicule, on a oublié. Aujourd'hui, ils sont des dizaines de milliers dans ces maisons de retraite. Ils sont 1,1 million de personnes âgées de 85 ans et plus dans notre hexagone. Et dans 10 ans, ils seront près du double. Ils seront, elles seront, c'est-à-dire nous. Mais non, le vieux, c'est l'autre. C'est comme... Le nègre, l'arabe, le juif et le pédé, c'est l'autre, c'est pas nous, c'est pas soi, c'est quelque chose d'autre. Quelque chose de caché, de planqué, d'ailleurs, de... qu'on veut pas voir. Et puis un jour, quand même, on est rattrapé par ça, une grand-mère, une mère. Et puis un jour, c'est soi. Il y a un énorme malaise avec les vieux dans ce pays, dans des pays comparables. Dans des cultures comparables. Le malaise, pas pour tout le monde. Le vieux est très rentable. Selon l'INSEE, le nombre de personnes âgées dépendantes devrait bondir de plus de 40% d'ici à 2020 et avoir quasiment doublé en 2040. Quelle industrie peut se prévaloir d'une aussi réjouissante prévision de marché ? Voilà ce qui nous intéressait avec Charlotte, c'est les vieux. Aujourd'hui, dans ce pays, de plus en plus nombreux, nous vivons de plus en plus longtemps, mais dans quelles conditions ? Le ministre des Affaires étrangères de Bolivie, David Choquehuanca, disait « Nous avons décidé de ne plus lire les livres, mais les rides de nos ancêtres. » La Bolivie, c'est très loin. Jusqu'à 16h, sur Inter, avec Charlotte Perry, les vieux.
J'exhibais ma carte senior sous les yeux goguenards des porcs qui partirent d'un rire obscène vers ma silhouette de sirène. Je suis vieille et je vous enfile avec mon look de libellule. Je suis vieille et je vais crever un petit détail oublié. Les malades sont prohibés, on les jette dans les fossés, à moi qui n'apporte du blé, de la thune aux plus fortunés. Les vieux sont jetés aux orties, à l'asile, au château d'oubli. Voici ce qui m'attend demain, si jamais je perds mon chemin. J'ai d'autres projets, vous voyez. Je vais baiser, boire et fumer. Je vais m'inventer d'autres cieux, toujours plus vastes et précieux. Je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule. Je suis vieille sans revoir ni loi, mais si je meurs, ce sera de joie.
à part ça. Rien de nouveau.
Non, que du vieux en maison de retraite, hein.
Ça, c'est vrai. Oui, oui, ça peut pas.
Vous pouvez pas vous préparer votre petit déjeuner? Oh,
non, bah non, bah non.
Et le petit chocolat chaud. On ouvre ses yeux pour...
Et voilà le travail quotidien, en fait. C'est tout le temps courir après quelque chose. Donc, la plupart du temps, on oublie le résident parce que on court, on fait vite.
Moi, je me suis vue prescrire à une dame en fin de vie d'un cancer du côlon. On m'a dit, sur cahier, mettez-lui un suppôt de Doliprane 4 fois dans la nuit. Je ne sais pas si vous imaginez. Un suppositoire d'un antalgique simple pour quelqu'un en fin de vie avec métastasé. Vous imaginez. Et c'est même pas par la bouche qu'on me demande de le faire, c'est de lui mettre par voie.
Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Ça va, monsieur, merci. Vous également? Vous avez raison, il faut. Oui, vous avez bien mangé?
Il y a des familles qui ont la possibilité, qui viennent les visiter de temps en temps. Mais il y en a qui les déposent et qui ne reviennent plus.
Quand on a créé des maternités, on a des usines à bébés, on a des usines à vieux. Voilà.
On est avec eux, hein. On connaît quand même plus ou moins leur situation familiale. Puis ils nous le disent, hein. Bah, j'ai des enfants, mais non, mais bah, je les vois plus. Alors ils passent pendant les vacances, ils passent par là, et puis ils arrivent, ils sont tout contents, on leur fait tout belle, tout beau, et puis c'est parti pour l'année prochaine. Et je peux pas dire que c'est la faute des enfants ou de la famille des frères et sœurs. Mais c'est les structures qu'il faut changer.
Régulièrement, on a un reportage poignant, terrible, sur la maltraitance dans une de ces maisons de retraite. Et aussitôt, un ministre apparaît qui promet qu'on va lutter contre cette maltraitance. Hubert Falco, par exemple, en novembre 2002, dénonçait la maltraitance que subissent chaque année 800 000 personnes âgées en France. Il déclarait que 200 000 lits étaient indignes d'accueillir des personnes dépendantes, soit un tiers des lits en maison de retraite. À qui profite ce crime ? Je l'évoquais, la vieillesse, le vieux, ça rapporte. Le vieux fait de l'argent, le vieux a de l'argent, et s'il n'en a pas, ses descendants en ont, il a des biens, il a des patrimoines, il a un patrimoine éventuellement, et il est vulnérable, donc c'est très facile de lui faire les poches. C'est aussi cynique et aussi sinistre que ça, et nous le savons. 68% des Français estiment qu'à l'heure actuelle, la prise en charge des personnes âgées par les pouvoirs publics n'est pas satisfaisante. 86% des Français estiment que les places disponibles en maison de retraite sont insuffisantes. 69% des Français décident d'être dans l'incapacité d'assumer le coût d'hébergement en maison de retraite. Et 32% des Français soupçonnent des situations de maltraitance en maison de retraite. C'est un très grand malaise et très profond malaise que nous évoquons à partir d'aujourd'hui dans cette maison de retraite qu'on va même pas citer, parce que ceux qui nous ont permis d'y accéder redoutent pour leur emploi. C'est extraordinaire de penser que pour simplement aller voir comment vivent nos anciens, il faut en passer par des ruses de sioux. Mais c'est ainsi, et c'est ainsi qu'avec Anne-Marie, nous entrons dans cette maison où elle va rencontrer sa mère. Mais d'abord, rencontre avec Anne-Marie.
Moi, j'habite Châtellerault, je viens toutes les semaines, quelquefois deux fois par semaine, voir ma maman. Surtout quand elle est fatiguée comme ça. Elle n'a jamais voulu venir en maison de retraite, maman. On a été obligés, elle ne voulait pas venir. On a eu énormément de mal à... Vous savez, deux ou trois fois, on a refusé parce qu'elle ne voulait pas venir. Parce que maman a toute sa tête, elle n'est pas malade d'Alzheimer, hein. c'est une personne qui cogite beaucoup, hein. Mais étant donné qu'elle est très malade, elle est diabétique et elle tombait. Elle tombait quand l'infirmière arrivait le matin pour l'insuline. Ben elle l'a trouvée où, sous la table ou... Alors on n'avait pas de solution. Hein. Il fallait la mettre quelque part. Hein. D'abord ils voulaient plus la garder là-bas.
Hein. C'était dans un foyer logement.
Foyer logement, oui. Elle y a été 10 ans. Parce que quand mon papa est décédé, elle habitait Tours, mes parents habitaient Tours. Quand mon papa est décédé, on l'a fait enterrer ici à Jouy-les-Tours. Et maman a pris un appartement ici tout près, c'était au Morier. Et elle a fait 2 infarctus. Donc le médecin a dit stop, il faut... Et là, elle voulait pas y venir. Hein. Là, elle voulait pas. La maison de retraite, ça l'a bousculée, quoi. Elle est devenue plus ou moins... Comment on peut dire, agressive quand même. Agressive, oui. Même avec nous. Hein. Elle a changé parce qu'elle aimait bien être entourée. Mais là, depuis qu'elle est là, elle ne veut pas descendre en bas. Elle ne veut plus regarder sa télé. Alors qu'elle adorait, elle regardait Les Feux de l'Amour, Julien Lepers, comme toutes les personnes âgées. Et depuis qu'elle est là, on n'a jamais allumé la télé. Je crois qu'elle n'a plus envie d'aucun contact. Ah oui, depuis qu'elle est là, elle s'est renfermée sur elle-même. C'est fini, c'est terminé. J'ai l'impression que dans sa tête, elle s'est dit, ben, ils m'ont mis là. Je pense qu'elle aurait aimé venir chez l'un de nous. Elle espérait ça. Et je pense que quelque part, elle nous en veut quand même. Oui, oui. Maman, actuellement, est en chambre seule, mais elle a été 2 ans en chambre double. Là, c'est pas marrant, hein. Entre la mamie qui lave le slip toute la journée, qui perd la boule, et puis entre l'autre qui crie, c'est pas toujours évident. Hein. Alors, entre deux, ben, vous avez les gens qui crient dans la journée. Ben, y a des gens qui sur le côté, qui renversent les verres, qui appellent. Hein, vous voyez, c'est... Moi, je veux dire, moralement, le psychisme, il en prend un coup quand même, hein. Au début, elle nous disait, mais je suis là pour combien de temps? Alors on disait, ben maman, tu vas te reposer. T'es en maison de repos, tu vas te reposer. Mais là, je ne sais pas ce que maman, elle pense vraiment en ce moment. J'en sais rien, je ne sais pas. J'ai l'impression que quand on rentre, et je suis à peu près sûre que c'est ce que maman a eu comme idée, on a l'impression que c'est là, c'est fini. Là, c'est le mouroir, la vie, elle s'arrête là. Elle va s'arrêter parce que vous êtes en maison de retraite et vous n'en sortirez pas. Moi, je pense comme ça. Si un jour je me retrouve en maison de retraite, j'espère ne jamais y venir. Jamais.
Ces paroles-là, vous les avez entendues, vous les avez dites et répétées, ou vous les direz, et vous les direz, forcément, on peut espérer que les choses changent, que la réflexion avance, qu'on ait un autre regard sur le troisième âge, sur le quatrième âge, mais on en est très très loin. Le point de vue de Mustapha Ramdam, qui est responsable syndical Sud Santé au CHU de Tours.
Les maisons de retraite aujourd'hui, d'abord, c'est parler de maisons de retraite, c'est un non-sens, parce que si c'est ça la retraite, si c'est ça être en retraite, si c'est ça être en retrait, oui, c'est un, voilà, on est en retrait de tout, ça c'est une évidence. Mais quand on parle de ces lieux-là, on a plutôt des structures, des institutions qui sont à la fois des mouroirs, des lieux de fin de vie, où se concentre toute la douleur, toute la souffrance, toutes les, y compris l'indifférence, un peu des pouvoirs publics, un peu de la société en même temps. C'est-à-dire, c'est un lieu caché où se concentrent toutes les souffrances des gens qui y travaillent et des gens qui sont accueillis ou soignés. Mais quand on parle de ces lieux-là, si vous voulez, c'est 2003. 2003 est une année où a été révélé ce qu'on appelle le scandale des maisons de retraite, ce qu'on avait la canicule, etc., qui a révélé ce qui pouvait se passer dans ces maisons de retraite. Depuis 2003, après les larmes de crocodile des politiques, rien n'a changé. Les choses sont en plus aggravées par rapport à 2003. Puisque on a l'opposé, bah pour le privé par exemple, même pour le public malheureusement, eh bien, au bout du compte, c'est quand même les bénéfices. C'est-à-dire la rentabilité des lits qu'on gère là-dedans. Mais les gens qui sont là-dedans ne comptent très très peu, et les gens qui travaillent aussi. Voilà, on a fait un marché du vieux. Si vous voulez,
ces maisons-là sont, en gros, la face cachée de notre activité économique. Voilà, c'est le bout de chaîne. C'est la fin de la chaîne.
Quand j'arrive et que je vois la chambre sale, ben moi, ça me déboussole. Dites, vous savez, quand elles font le ménage le mardi et que vous arrivez le vendredi ou le samedi, si elles n'ont pas eu le temps de le faire, les salles d'eau, c'est pareil. Hein. Ah ben en bas, c'est super propre. En bas, il n'y a pas de problème. Hein. C'est là où les gens rentrent, c'est là... J'ai demandé l'autre jour si la direction avait une seule fois monté dans les étages. Non. Non. Il n'est jamais venu voir dans une chambre comment c'était. Depuis qu'il est là. Non. Et ça, je ne suis pas la seule. Mais je pense qu'il y a des gens qui n'oseront pas le dire, mais qui le pensent dans les couloirs. Mais qui viendront pas en parler, voyez. C'est ça qui est moche, parce qu'ils ont peur des représailles. Je vois pas quel genre de représailles il peut y avoir. On va pas aller faire des misères à des petits vieux quand même, hein. Parce que là, c'est le personnel qu'on défend, là. Moi, je défends le personnel, là. Donc, je vois pas pourquoi on ferait des représailles.
Quand on parle de maltraitance, c'est difficile de vous dire que la maltraitance institutionnelle, les soignants la portent sur eux. Parce qu'on lui fait faire des choses qui relèvent aussi de la maltraitance. On va vous donner un protocole pour faire les choses. On va vous donner un rythme pour faire les choses. On va vous donner un temps pour dire, bon, vous faites ça dans tel et tel temps. Mais si vous venez pour soigner, pour avoir du temps pour soigner, pour comprendre l'autre, ben, c'est pas ça que vous faites. Vous faites autre chose. On vous fait faire autre chose. Les vieux, c'est un jugement. Il y a des gens qui travaillent, sont exploités dans ces jugements-là. Mais là-dedans, ne parlez pas d'humanité, ne parlez pas de maison de retraite surtout, parlez d'institutions à la limite, c'est poli, parlez des EHPAD, ça porte un nom, voilà, c'est des lettres, sympa. Mais ne parlez pas de maison de retraite, ne parlez pas de lieu de vie. Ça porte un nom. Alors ils ont trouvé les EHPAD, ça c'est pas mal les EHPAD, parce que c'est au moins ça, Kézako, bah, c'est des EHPAD, bon d'accord. Voilà, quand on a des EHPAD, on n'a peut-être pas tout dit, mais une fois qu'on y est, on commence à voir un peu ce que c'est. Voilà. En tout cas, c'est pas lieu de vie, c'est clair. C'est pas lieu de vie, c'est clair.
Vous payez combien pour...
Exactement, je ne sais pas, parce que c'est la maison de retraite qui se paye. Je pense que, en tout le temps que moi j'ai réglé, ça tournait autour de 1000... entre 1600-1700 euros. Ça a dû augmenter maintenant. Hein. 1800, peut-être un peu plus. Tout ça, ça dépend des J, hein. C'est les gens qui sont plus ou moins dépendants. Alors, maman avait de l'argent de côté. Tant qu'elle a eu de l'argent, elle a payé. Maintenant, elle a une part qui est prise par le conseil général. Et nous, les enfants, on a une petite quote-part à payer aussi. C'est l'avantage d'une maison de retraite publique. Là, le conseil général a pris... Parce qu'attendez, les retraites, maman, elle touche pas beaucoup hein, de retraite, hein. Elle n'a pas grand-chose. Hein.
Ça suffirait pas pour payer la maison.
Ah, pas du tout. Non, mais vous connaissez des gens, vous, à la retraite, qui ont 1700 euros par mois. On va aller la voir, si vous voulez, tout à l'heure. J'ai demandé qu'on lui donne peut-être un petit supplément alimentaire parce qu'elle ne se nourrit pas. On lui apporte le plateau, mais je crois qu'il repart comme il est arrivé. Hein. Elle veut pas. Elle veut rien manger. Rien, rien, rien. Eh oui.
L'ancienne, celle que je vois souvent assise aux alentours de la rue des Tables Claudiennes, l'ancienne, et dont le sourire m'hypnotise quand je la croise au détour de mes allées venues quotidiennes. À la douceur des traits de son visage, je peux dire que si je bâtissais un village, elle en serait la sage. À la douceur des traits de son visage, j'affirme que ce n'est pas l'âge qui de jeunesse égage. L'ancienne qui spontanément sourit aux gens, un sourire bienveillant, un sourire de magicienne. L'ancienne est-elle fille d'immigrants venue d'Italie ou est-elle née croix-roussienne? J'aimerais parler avec elle, la toute vieille, la toute belle, embrasser sa mémoire, coucher ma tête sur son histoire, m'arrêter un jour en passant entendre sa voix, son accent, comprendre pourquoi elle paraît toute pétrie de joie. Oh. Car les anciens, on les camoufle bien, on construit des maisons pour eux, que leur sourire généreux n'irradie pas l'espace, ne laisse pas la place à l'envie de se poser, de réfléchir, de se causer. Ils connaissent pourtant des langues et des villes oubliées qui pour peu comprennent le temps de creuser, de fouiller, réfléchit la lumière, donne un peu de matière et nourrit de présence notre quête de sens. Sonore son aveu, à ce nom de la paille, à ce nom de l'ogre, à chaque toque de pays, à lèvre de l'homme. Ok, joy à venir, à quatre mon propos, il faut y avoir son aveu, à rifo y avoir la paille, il faut y avoir l'ogre, à chaque toque de pays, à lèvre de l'homme. Ok, joy à une image loin des canons de beauté, ceux de la tranche d'âge vénérés par la cité. On ne leur parle pas, on les pose à côté et on les éloigne du repas. On cherche à éviter pourtant l'ancienne. Je la vois souvent qui parle avec des gens. C'est sans doute qu'ils se souviennent que les anciennes charrient des tonnes de bouts de vie et que les romances, ce sont elles qui les détiennent, l'ancienne.
C'est la maison de retraite, là vous rentrez. Voilà, l'entrée. Ça a été refait là dernièrement. Voilà, allez-y. Voilà l'entrée. Alors là, quand vous rentrez, c'est toujours propre. Hein. Bonjour. Je vous présente le capitaine.
Bonjour, c'est le monsieur avec la casquette ?
Oui, c'est le capitaine. Pardon, monsieur. Bonjour, monsieur Leveau. Ça va ?
Oh, ça me fait mal à ma jambe aujourd'hui. Là, j'ai mal.
Vous avez mal, bah oui.
Je vais aller à l'infirmerie.
On peut monter avec vous, madame ?
Ah, mais oui.
Nous, on va en premier.
Là, on arrive au premier.
Alors, maman, elle était avant, elle était dans cette chambre-là.
Là, la chambre.
Voilà, le Canada, là, fatiguée. Elle était dans cette chambre-là.
Une drôle d'odeur, non ?
Qu'est-ce que c'est, cette odeur ?
Pipi ?
Ah oui, oui. Et je ne suis pas la seule. Il y a la pédicure l'autre jour qui est venue par maman.
Là, les bas des portes, c'est quand même assez usé. Hein.
Oui, c'est une vieille maison, quand même, la maison de Gaulle.
Alors là, les dames, elles peuvent voir la télé. Ça vous dit rien ? Bonjour, mesdames, messieurs, bonjour. Dames.
Alors, elles s'assoient, elles ont la télé. Et voyez, maman, elle ne vient jamais. Vous voyez, c'est pas net.
Et puis c'est...
Voilà.
Les plantes, là, elles sont... Il n'y a plus de plantes, c'est tout arraché. Les tables, elles sont cassées, c'est...
Oui.
Il y a un vieux tourne-disque, là.
Ah, oui, j'avais même pas remarqué. Alors, elle s'assoit, là. Et puis, elle regarde la télé, une partie de l'après-midi. Bonjour, madame. Vous allez bien ?
Ça va ?
Bonjour.
Personnes âgées sont hébergées dans ces institutions.
C'est un chiffre qui va doubler dans les 15 années à venir. Et avec ce chiffre, le chiffre de la maltraitance, je le disais en commençant, il y a des organismes qui luttent contre la maltraitance, il y a des promesses de lutter contre la maltraitance, on en parlera dans la suite des reportages, des types de maltraitance différents, etc. Mais la première maltraitance, évidemment, est de considérer la personne âgée comme une marchandise, au mieux, un déchet, au pire. Le point de vue des soignants.
Toutes les deux, vous êtes aides-soignantes ?
Oui, oui, depuis un certain nombre d'années.
C'est une très ancienne maison de retraite, non ?
Oui, parce que ça a commencé dans les années 1800, c'était un hospice, après ça s'est agrandi au fur et à mesure des années et des besoins. Après, on a eu un bâtiment qui s'est construit vers les années 60. Après, on en a eu un autre qui s'est reconstruit dans les années 90. Donc, tout ça, ça fait que ça fait quand même des grandes structures. Mais c'est vrai que là, c'est les locaux qui sont quand même vétustes dans les meubles, dans les murs, dans les normalisations d'électricité, sécurité. Les chambres sont trop petites, il y a trop de matériel, on a besoin des fois de lève-personne, on a des meubles qui nous gênent.
Il y a combien de résidents dans cette maison de retraite ?
237. C'est énorme. Donc c'est des grands couloirs. Sur un même service, on peut avoir le maximum, c'est 73 résidents sur un service. Donc on est quand même 8 le matin à s'en occuper. Après, il y a le ménage à faire. Et c'est là que si le bas blesse, parce que si le ménage n'est pas fait, les familles portent plainte, mais se plaignent du manque d'entretien. Quoi.
Et c'est à vous, les aides-soignantes, de faire le ménage ?
Ah oui, c'est tout le monde confondu, oui, on veut entretenir les chambres.
Et les résidents, ils se plaisent dans cette maison de retraite ou ils se plaignent ?
Bah, se plaindre, je pense que ce qu'ils se plaignent, c'est de pas nous voir assez. Parce que ce qui manque beaucoup, c'est le côté relationnel. Malheureusement, c'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne peut pas. Vu la charge de travail, nous, on aimerait aussi prendre le temps. Parce que il faut pas oublier qu'une personne âgée, ce qu'elle a besoin, c'est de l'affection, qu'on l'écoute, c'est tout le côté relationnel. Malheureusement, on ne peut pas.
Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a les toilettes, mais on n'a pas que les toilettes à faire. Il y a les rideaux à entretenir, il y a des commandes de produits à faire. On nous demande de mettre ça à jour, de faire ci, de faire ça. Mais on passe quoi, je vous dis, une demi-heure, trois quarts d'heure, le plus, et c'est tout. C'est tout ce qui nous voit dans la journée. Voilà. Là, c'est vrai que les personnes âgées, c'est un petit peu sujet tabou. Il y a très peu de structures. C'est vrai que tout le monde national dit que les personnes vieillissent de plus en plus, mais il n'y a pas de structures qui suivent. Il n'y a pas le personnel qui suit. Il n'y a pas les compétences qui suivent. Il y a beaucoup de choses qui fait que, on parle de résidents, on parle de personnes âgées de plus en plus dépendantes, mais c'est tout, on reste là. C'est vrai que le soin à domicile a beaucoup évolué, mais maintenant, il faut penser aux personnes de plus en plus dépendantes, même au niveau des démences type Alzheimer, il n'y a pas de structure. Donc le personnel, on n'en tient pas compte, on est des robots, on doit faire ci, on doit faire ça, et le côté humain n'est pas pris en compte non plus.
Combien d'entre nous ont vu le vieux qui passe dans la rue, épouvantail tout gris, que la cité a exclu. La rue, les gens et le monde vont bien trop vite pour lui. Dans ses yeux absents d'enfant ne passe que l'effroi du temps. Pour les cendrer, remonter 6 étages d'escalier, il faut l'éternité. Quelle faute a-t-il pu commettre le vieux tout gris qui traîne ses vieux membres rassis? Combien d'entre nous ont fait quoi que ce soit de palpable, un geste, un mot, un sourire, pour le raccrocher à nous. La vieillesse nous fait frémir, on ne veut pas croire au pire. Nos yeux ne retiennent d'elle qu'une image irréelle. Mais peut-être que pour nous, nous les vieux de demain, la vie aura changé. En s'y prenant maintenant, nous-mêmes et sans attendre à refaire le présent.
La couche de béton ou mortier appliquée sur le sol pour le rendre plan et uni. On dit lui une charte, voilà.
J'ai ben un Jules là en face.
Vous avez un Jules là en face?
Oui, juste en face, il a 103 ans. Puis j'en ai un autre, mais il a que 7 ans. Alors faut que je l'attende pour me marier. Oh, il dit surtout, hein, mamie, tu te maries pas tant, tu m'attends. Oui, oui, n'aime pas peur. Je t'attends. Ah, j'aimais ça chanter. J'ai deux amours, non, c'était pas Tilly.
Non, c'était Joséphine Baker. J'ai deux amours, mon pays et Paris.
Paris, toujours, mon cœur est ravi. Ma savane est belle, mais à quoi bon le nier? Ce qui m'en sorcelle, c'est Paris, Paris tout entier. Le voir un jour, c'est mon rêve d'amour. J'ai deux amours. Mon pays à Paris! Oh, j'aimais ça chanter.
Ah oui, elle a 92 ans. Hein.
Oh, j'aimais ça chanter.
Et vous vous plaisez ici?
Bah, je suis obligée, je suis chez nous. La maison est à moi. Et toutes les maisons à côté sont à moi. Tout le quartier est à moi.
Bonjour, bonjour madame. Je vais vous servir une petite boisson. C'est l'heure du goûter. Je vais vous servir une petite
boisson. Pourquoi pas du champagne?
Ah, j'ai pas de champagne.
Moi, je bois que ça.
Mais j'ai pas ça dans mon magasin. Voulez-vous un petit gâteau? Un petit gâteau pour accompagner la petite boisson.
C'est un gâteau, ça?
Oui, c'est du cake, maman.
Ah, ben, je suis bien, oui.
Donne, je vais t'ouvrir.
Ah, des fois ça
on entend crier.
Veux-tu que je te l'ouvre, maman? T'auras du mal à l'ouvrir. Heureux d'avoir un petit peu de vie.
Maman, ne crie pas. Ils vont croire que t'es toc-toc. Crie
c'est
pas.
C'est vrai?
Donne, je vais te l'ouvrir. Donne, je vais te l'ouvrir.
C'est pas toc-toc, on est même loin. Mais dis, maman, là, avec quelque chose, vous voyez qu'on a un peu plus de
temps. J'ai faim!
Je vais dans la chambre à côté. Vous voyez, elle me dit,
c'est
bon,
je
l'ai dit.
Je peux ouvrir aussi.
Ben, si, ben, donne, je vais te l'ouvrir, maman.
Ah, j'y arrive.
Ben oui, mais j'ai dit que c'est un cake.
Oh, c'est dur à l'ouvrir.
Ben, excuse-moi. Ben oui, il n'y a pas de. C'est vrai qu'il n'y a pas de prise. Hop, ça y est.
tout qu'on peut garder.
Scène ordinaire dans une maison de retraite, quelque part en France. Maintenant, le point de vue de Patrick Pelou, que vous connaissez, qui est médecin urgentiste et syndicaliste.
Alors, moi, je suis Patrick Pelou.
Qu'est-ce qu'on fait de nos vieux? Parce qu'aujourd'hui, quand on visite une maison de retraite, on se rend compte que les personnes âgées, bah, quand on est un peu vieux et un peu dément, on est enfermé dans une unité sécurisée, comme un criminel, avec des fous, des séniles, des grabataires, hop, tout le monde ensemble, on ferme la porte, et cachez-moi ces vieux, quoi. Est-ce que c'est ce qui nous attend tous?
À l'heure actuelle, c'est clair, c'est ce qui nous attend. Et vous savez, si vous prenez pas que les vieux et que vous commencez à réfléchir de la place des personnes handicapées en France, c'est un calvaire. Bon. Donc, on a un problème qui est un petit peu semblable à celui que la psychiatrie avait analysé dans les années 70, en disant on va en finir avec les asiles d'aliénés, où on va enfermer tout le monde et on les laisse... Bon, donc en fait, on en est là. La psychiatrie a réussi à réinsérer le fou. Il faut réinsérer le vieux. Je vais vous prendre un exemple. Un exemple, à mon avis, très simple et très bête. L'une des épreuves neurologiquement les plus complexes, c'est de conduire une voiture. Or, on supprime progressivement le commerce de proximité. La boulangerie, le petit épicier, le tabac. Ce qui fait que les personnes âgées se retrouvent seules. Même dans les grandes villes, vous en avez qui se retrouvent dans un véritable désert. Donc, nous avons en effet une pente absolument abjecte à l'heure actuelle, qui est de dire finalement, vous êtes vieux, vous irez dans les maisons de retraite. Et vous avez déjà des pensées, notamment chez des gériatres ou dans des pays comme le Danemark, où ils disent non, les maisons de retraite, c'est pas du tout. Il faut remettre la personne âgée et la personne handicapée plus généralement à l'intérieur de la ville. Ça s'appelle la mixité sociale. Ça s'appelle être moins con, tout simplement. Il y a des alternatives où d'un coup, les personnes âgées peuvent être regroupées par des petites unités où on crée des quartiers, mais qui ne sont pas des ghettos. Ce ne sont pas des ghettos. C'est vers cela qu'il faut tendre. Parce que jamais dans l'histoire de l'humanité, on a eu une telle espérance de vie. L'enjeu actuel, c'est de savoir comment on va civiliser ces espaces de vie. C'est éminemment politique.
C'était un reportage de Charlotte Perry dont nous retrouverons la suite demain, première diffusion le 16 novembre 2009. À lire sur le sujet « On tue les vieux » de Christophe Fernandez, Thierry Ponce, Dominique Prédali et Jacques Soubéran, paru chez Fayard en octobre 2006, et 12 gériatres en colère où il est question de la mondialisation de la maltraitance des vieux de Dominique Prédali et Jacques Soubéran, publié également par Fayard en janvier 2009. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas, si j'y suis. À la technique aujourd'hui, il y avait Philippe Duclos et Sandrine Laurent, à la réalisation Coyen Guyen et Franck Adhérer, assistante Agnès Lebot, chef du répondeur Marina Touillez. Le numéro du répondeur de là-bas, si j'y suis, est le 01 56 40 37 37.
Écoutez les paroles d'un vieux sèche-cheveux qui va rendre son dernier souffle. Je veux qu'on se rappelle de moi comme du prince du brushing, pas comme d'une vieille ordure mise à la poubelle. J'expire. Rapportez-moi en magasin qu'il me recycle, que j'accède à une deuxième vie qui décoiffe.
Ensemble, collectons pour ne pas polluer.
Tous les points de collecte sur www.collectons.org. C'était un message d'Écosystème et du ministère du Développement Durable.
Qu'est-ce qu'ils ont encore inventé à la Poste?
Le recommandé qui revient chez toi une deuxième fois.
Comment ça?
Un peu comme un pélican, si tu préfères.
Un pélican?
Oui, il vole jusque chez toi, flap, 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 avec ses grandes ailes. Mmh. Et puis une fois arrivé, il sonne. Bon, t'es pas là. Bah, il repart. Mais si tu l'appelles au 3631, flap, 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 il revient, le pélican.
Au 3631?
Oui, flap, 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 le recommandé.
Si vous n'avez pas réceptionné votre recommandé au premier passage, appelez le 3631 avant 14h en semaine ou midi le samedi et la Poste vous le représentera gratuitement le lendemain. Numéro non surtaxé.
Et c'est pas tout!
La Poste, la confiance donne de l'avance.
Novembre 2010, Stéphane et Chloé s'interrogent.
On fait quoi avant Noël?
Je peux faire une suggestion?
Du 23 novembre au 13 décembre, profitez d'un million de billets TGV à petit prix pour les voyages du 26 novembre au 16 décembre. Offre soumise à condition, également disponible avec Théos, Lunéa et Intercité.
Super, prendre des billets pour la campagne.
Plus que 999 996 billets TGV à petit prix.
Et on va voir la mer à Saint-Malo.
Plus que 999 994
billets. Ah ouais, et après on part au ski avec les copains.
Plus que 999
999...
Non mais c'est fini,
oui.
SNCF.
C'est beau ce bruit. Tous ces millions qu'Euromillions met en jeu vendredi. Près de 44 millions d'euros. 44 millions. Et c'est qui va ramasser tout ça?
Estimation non garantie des gains à partager en 1 voire règlement.
Euromillions. Il n'y a que Euromillions pour gagner autant de millions.
FDJ.
Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Très belle l'après-midi. Dans quelques minutes, Frédéric Lodéon sur France Inter, il est 16h. Les informations avec Corinne Audouin.
Dominique de Villepin a commencé à témoigner devant le juge Renaud Van Ruynbeck, chargé du volet financier de l'affaire Karachi. L'ancien Premier ministre est arrivé à 14h au pôle financier du tribunal de grande instance de Paris. Il doit notamment s'expliquer sur deux possibles faits de corruption en marge de la vente de sous-marins au Pakistan. Et dans Le Monde qui paraît cet après-midi, l'ancien président du Conseil constitutionnel, Roland Dumas, est d'accord pour qu'on publie les procès-verbaux des débats qui ont abouti à la validation des comptes de campagne d'Édouard Balladur en 95. Ces comptes qui faisaient mention de versements en espèces ont été validés à l'époque contre l'avis des rapporteurs du Conseil constitutionnel. L'actuel président du Conseil, Jean-Louis Debré, a refusé de transmettre au juge les comptes rendus des débats. Renaud Van Ruynbeck enquête pour savoir si des rétrocommissions illégales ont pu profiter au financement de la campagne d'Édouard Balladur. Après avoir mené leur enquête, plusieurs associations protestent contre la politique de la France à l'égard des Roms, qu'elles jugent discriminatoires. L'association Romani Chris, qui a visité les camps Roms en France, juge que les reconduites volontaires à la frontière ne sont pas si volontaires que ça. Pour l'un de ses responsables, on les menace d'emprisonnement, alors ils signent pour partir, mais on peut difficilement parler de rapatriement volontaire. Rome Europe, collectif d'associations françaises de défense des Roms, souligne de son côté que le plus souvent, les obligations de quitter le territoire ne sont pas conformes à la législation. Les associations ont transmis à la Commission européenne un dossier de quelques 200 plainte sur ce point précis. En Lorraine, la neige qui tombe depuis ce matin provoque des retards à l'aéroport régional de Metz-Nancy-Lorraine et d'importantes perturbations sur le réseau routier régional. Nouveau bilan dans l'épidémie de choléra qui sévit en Haïti et qui a fait plus de 1500 morts. 10 mois après le séisme qui a fait 1 million de sinistrés, le pays est encore dans le chaos à 3 jours des élections présidentielles et législatives. Sarah Palin aurait besoin de quelques cours de géopolitique. L'ex-candidate républicaine à la vice-présidence des États-Unis a confondu les deux Corées. Invitée d'une émission radio, elle a déclaré que les États-Unis devaient être aux côtés de ses alliés nord-coréens. Gaffe rapidement rectifiée par l'animateur, mais qui fait la joie des blogueurs, pour qui ce lapsus est révélateur des lacunes de Sarah Palin en matière de politique étrangère. C'est une marque de vêtements, mais cela peut aussi être compris comme une insulte. Dans l'Aude, une collégienne a été invitée à ne plus porter un t-shirt de la marque Puta Madre, d'autant que ces mots, selon le principal du collège, ont une connotation sexiste. Reportage à Capendu dans l'Aude de Frédéric Bourgade.
Ni provocation, ni transgression, l'élève qui portait ce t-shirt semblait surtout ne pas avoir compris le sens des mots puta madre. C'est pourquoi elle n'a pas été sanctionnée, mais invitée à ne plus porter ce t-shirt, le principal du collège Alaric, Christophe Dussargue.
Il y a simplement une remarque faite par le conseiller principal d'éducation qui lui demande si elle est consciente de ce que veut dire ce message-là. Une fois qu'on lui a traduit le t-shirt, il n'y a pas eu de sanction. Dans tous les établissements scolaires de France et de Navarre, il est de notre devoir d'expliquer aux élèves que parfois certains propos peuvent être choquant, voire insultant pour d'autres.
Dans le collège, on incite plutôt les élèves à dire bonjour, au revoir, merci, pardon, s'il vous plaît. Mais comme on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, il y a des élèves tentés de le porter, Jordan est l'un d'eux.
Moi je le porterais volontiers, le t-shirt, le jogging, la veste, l'ensemble, moi j'aimerais l'avoir.
Et le gros mot qui est dessus?
Moi aussi un peu, je suis choqué, mais voilà, c'est un peu de la provocation, voilà.
Les parents d'élèves ont pour obligation de vêtir décemment leurs enfants pour aller à l'école, c'est pourquoi Jean-Luc, parent d'élève, trouve pitoyable que pour vendre des vêtements, on insulte les femmes.
Ça devrait même pas exister, c'est insultant. Faut pas dire aux autres, il faut pas penser qu'à soi, ça devrait même pas exister. Marque ou pas marque.
Cela dit, la provocation est depuis longtemps pour certaines marques une stratégie marketing comme de dénuder les femmes pour vendre un produit.
Et petite précision apportée au débat, de puta madre en espagnol s'emploie pour dire grandiose ou génial.
jours.
Elle a ri.
À partir de 11h.
Vous l'avez fait rire.
Le fou du roi.
Stéphane Bern.
Ce qu'on adore, c'est cet enthousiasme posé des questions.
Pour assister au prochain Fou du Roi en direct du studio 106 avec Daniel Pénac, HD et Annie Lennox, rendez-vous demain vendredi dès 10h dans le grand hall de la maison de Radio France.
C'est toujours un problème capillaire.
C'est pas gagné. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Le Fou du Roi, Stéphane Bern, tous les jours sur France Inter à partir de 11h.
France Inter et l'Opéra Comique présentent Cadmus et Hermione. Le premier opéra français composé par Lully à la gloire du Roi Soleil, dans une mise en scène féerique de Benjamin Lazare et dirigé par Vincent Dumestre. Retrouvez Cadmus et Hermione du 29 novembre au 5 décembre à l'Opéra Comique et le 29 novembre à 20h05 dans l'Humeur Vagabonde.
France Inter. France Inter.
La différence.
16h05 sur France Inter, l'heure de Frédéric Lodéon, Carrefour de Lodéon. Bonjour.
Bonjour Corinne. Carrefour de l'Odéon. Grand bonjour, j'espère que vous avez entendu ce matin le journal, la matinale de France Inter en direct d'Haïti, enfin peut-être, sinon on peut réécouter évidemment sur franceinter.com un événement dans un pays qui est choqué, qui est bousculé, qui est malade, et j'ai cherché parmi les musiciens ceux qui avaient quelques attaches avec Haïti. Mais on trouve Louis Moreau Gottschall, qui est né en 1829 à la Nouvelle-Orléans, mais dont la mère était venue d'Haïti, s'installer après en Amérique, et après aussi, il a sillonné l'Amérique du Sud, les Caraïbes, pour faire vivre sa famille. Il a visité Cuba, les Antilles, Porto Rico, Haïti même, dans l'ordre, la Jamaïque, le Venezuela, la Guinée, puis le Brésil. Il a donné un nombre impressionnant de récitals. Voici « Oh ma charmante, épargnez-moi », on a envie de dire en ce qui concerne Haïti, c'est pas charmant, le danger n'est pas charmant du tout, c'est le choléra et la pauvreté, et même la violence. En tout cas, voici cette jolie musique de Gottschalk. Thank you. On va rester après ce morceau de Gottschalk, très joli, « Oh, ma charmante, épargnez-moi », interprété par Laure Favrecane. On va rester là-bas, un pays que Gottschalk a visité, le Brésil, avec John Nesling, qui est né à Rio de Janeiro, et un disque récent nous le montre, dirigeant des pièces de Respighi à la tête de l'Orchestre Symphonique de San Paolo. Et ce sont des poèmes symphoniques, des descriptions, alors loin du Brésil, mais voici par exemple de Respighi, les fontaines de Rome, et précisément la fontaine du Triton, le matin. C'est un peu strident parce qu'il y a des gosses qui jouent autour et qui s'amusent quelquefois avec des sifflets.